7h42 sur France Culture et nous accueillons nos invités, le rabbin Delphine Horwiller, bonjour, et l'islamologue Rachid Benzine. Coexister entre les religions, c'est devenu aujourd'hui une question, j'allais presque dire un problème et non plus une évidence, d'où votre livre, le livre que vous publiez donc à quatre mains, Des mille et une façons d'être juif ou musulman aux éditions du Seuil, mais c'est aussi le sujet d'un film, récent de Fabrice Eboué. On en écoute un extrait.
Et pourquoi on fait pas ça ?
Quoi ?
Un prêtre.
Très bien.
Un rabbin.
Mazal tov !
Et un imam.
J'ai une gueule d'imam, moi.
Réunis sur scène pour chanter ensemble.
Moi, je vous rappelle que nous sommes dans un pays de culture chrétienne.
Judéo-chrétienne.
Ah non, chrétienne. Les rois de France n'étaient pas juifs.
C'est dommage, parce que vaut mieux avoir la bite coupée plutôt que la tête.
Oh, bah c'est malin, ça. One, two, three.
C'est compliqué, Rachid Benzine, de dialoguer aujourd'hui entre juifs et musulmans en France.
Pour dialoguer, il faut d'abord quelques conditions, c'est-à-dire ne pas réduire les autres uniquement à leur religion. Ensuite, de montrer qu'il y a une diversité à l'intérieur du monde musulman ou du monde juif ou du monde franco-juif, franco-musulman. Et donc, la question c'est, on dialogue pourquoi ? Si on peut dialoguer pour partager des questions, pour, je dirais, compliquer un peu les intrigues, mais si nous cherchons à dialoguer pour dire que j'ai raison, que la vérité est de mon côté, ce type de dialogue ou ce type de travail mène à des impasses.
Votre réponse, Delphine Horwiller.
Oui, je crois effectivement que c'est difficile ces dernières années parce qu'on a été réduit à nos, on a été dans une assignation à résidence identitaire évidente. Quand on parle, on a l'impression tout à coup qu'on n'est plus que juif ou plus que musulman. Et c'est troublant de voir, et c'est ce dont on se rend compte aujourd'hui avec la sortie du livre, que parfois on dit des évidences, c'est-à-dire qu'on n'est pas que juif ou que musulman. Et certaines personnes trouvent ça courageux, alors que ça relève de l'évidence, bien entendu, mais ça dit à quel point on n'est plus que dans des identités monolithiques depuis quelques années.
Alors, il y a quelque chose qui réunit les religions aujourd'hui, c'est leur mise en accusation par certains de la manière dont celles-ci traitent les femmes. La question des femmes dans l'espace public est au cœur du débat en France, aux États-Unis également, suite à l'affaire Weinstein, suite également au hashtag Balance ton porc. Qu'en pensez-vous, Delphine Horwiller ? Est-ce que les religions ont leur part de responsabilité dans cette situation ?
Incontestablement, vous avez raison de le dire, c'est pas propre au discours religieux. On voit aujourd'hui à travers les affaires de problématiques de sexuelles dans différents mondes, dans le show business, etc., que la problématique est toujours la même. C'est la question éternelle de à qui appartient le corps des femmes. Est-ce que les femmes peuvent posséder leur corps? Est-ce qu'elles en ont une propriété ou est-ce qu'elles sont sous la protection d'un autre? Et là-dessus, le discours religieux a une responsabilité énorme parce que bien souvent, cette femme ou ce féminin au cœur du discours religieux représente l'autre, l'altérité, ce qu'on ne peut pas tolérer, ce sur quoi on aspire à avoir une propriété, effectivement. Et puis je crois que si tous les discours religieux ont un problème avec le féminin, c'est parce qu'ils représentent aussi la frontière du groupe, la peur de la contamination, la peur d'être influencé par l'extérieur à soi. Et ça, c'est quelque chose qui terrorise les discours, particulièrement les discours fondamentalistes au sein de nos traditions religieuses.
Rachid Benzine, pour l'islam, est-il possible d'envisager un islam qui soit plus tolérant à l'égard de l'idée de féminisme, du féminisme et de la place réservée aux femmes.
Tout dépend de la définition que vous donnez de l'islam. Et vous savez qu'à l'intérieur de l'islam, il y a différents groupes. C'est-à-dire, vous avez par exemple le wahhabisme salafiste, les frères musulmans, l'islam confrérique, l'islam traditionnel, l'islam nationaliste. Donc vous avez autant d'islam que d'individus. Et à l'intérieur, par exemple, du soufisme ou du confrérie ou de l'islam traditionnel, la place des femmes n'est absolument pas la même. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que beaucoup de sociétés où l'islam est là, ce sont des sociétés qui sont encore traditionnelles, qui sont en train de sortir, je dirais, de cette société traditionnelle pour aller vers cette modernité. Et cette sortie d'une société traditionnelle vers des sociétés postmodernes crée des crispations. Et ces crispations se font autour, je dirais, du féminin, autour de la question de la femme. Mais à l'intérieur aujourd'hui du monde musulman, il y a un certain nombre de femmes qui tentent de relire les textes dans une perspective féministe et la question, c'est quelle est la place finalement de cette altérité qui représente la femme aujourd'hui dans l'islam.
Mais justement, parce que c'est autant une question théologique pour l'islam qu'une question de société, on a l'impression que les sociétés à majorité musulmane sont en train de se fermer. On peut prendre l'exemple de l'Égypte parce que Abdel Fattah el-Sissi, le président égyptien, est actuellement en visite en France. Quand on voit des photos de la société égyptienne avant et des photos de la société égyptienne aujourd'hui, on est frappé par la multiplication des voiles qui, pour nous, à nos yeux, en tout cas, représente une manière donc de considérer que les femmes doivent se masquer, se cacher. Est-ce que on n'a pas affaire à une pente fatale dans ce domaine-là?
Je pense qu'il faut d'abord comprendre l'évolution de ces sociétés, notamment après les indépendances. C'est-à-dire, c'est l'échec des indépendances et une islamisation des sociétés. Et une islamisation qui se fait notamment à travers le salafisme wahhabite ou à travers les frères musulmans. C'est-à-dire que pendant 50 ans, nous avons eu des discours sur l'islam avec, je dirais, une orientation beaucoup plus fondamentale sur la question de la femme. Puisque la femme, ça devient le nœud, finalement, de toutes ces sociétés. Et que l'enjeu aujourd'hui, me semble-t-il, dans ces sociétés-là, c'est la question du corps de la femme, c'est la question de la place des femmes, c'est la question des droits de la femme, parce que finalement, nous sommes dans cette crise même, je dirais, de la famille traditionnelle, où les rôles sont en train d'être recomposés, avec une difficulté notamment des hommes à trouver cette nouvelle place, puisque finalement, ces femmes sont aujourd'hui en train de conquérir l'espace public, et on a l'impression que dans ces sociétés, la place de l'homme est aujourd'hui à redéfinir. C'est pour ça qu'on ne peut pas, me semble-t-il, parler de cette question de la femme ou des femmes musulmanes sans poser la question de la place de ces hommes aujourd'hui.
Même question pour le judaïsme, parce que dans le judaïsme orthodoxe, là aussi, la place de la femme doit cacher ses cheveux, la femme a une place qui n'est pas l'égale de l'homme, notamment dans le cas des procédures de divorce. Est-il possible de réformer le judaïsme ?
Mais c'est fait déjà à l'heure actuelle dans une bonne partie du monde juif. Ça reste effectivement un problème dans le monde orthodoxe, ultra-orthodoxe, où la femme est encore totalement éclipsée ou sous la souveraineté du masculin dans bien des domaines, notamment dans le droit de la famille. Mais aujourd'hui, il y a de nombreux débats, y compris au sein de l'orthodoxie, pour essayer d'avancer sur ces sujets. Moi, j'appartiens à une sensibilité du judaïsme qui, bien sûr, est progressiste, libérale, et ces questions ont été résolues il y a de ça très longtemps, notamment à travers l'accès des femmes au leadership religieux. Mais ça reste un combat permanent et qui est présent encore une fois dans le monde religieux, mais pas que dans le monde religieux. Je crois qu'il faut se poser les questions de façon beaucoup plus large. Qu'est-ce qu'on dit du féminin dans nos narratifs religieux et non religieux, dans les contes, dans les récits qui sont les nôtres?
Mais est-ce que justement vous n'êtes pas minoritaire? Je poserai la question à Rachid Benzine également pour le monde musulman, mais lui est islamologue, vous êtes rabbin. On devrait peut-être dire d'ailleurs rabbine. Déjà, cela est dans le judaïsme orthodoxe, c'est une hérésie.
Oui, mais les choses changent. Je pense que même au sein de l'orthodoxie, aujourd'hui, il y a une réflexion. Elle n'a pas lieu vraiment en France, et il faut se poser la question
mais
de pourquoi.
Pas en Israël non plus.
Elle a lieu en Israël en partie, puisqu'aujourd'hui, il y a des femmes rabbins en Israël, y compris dans le monde orthodoxe. Mais c'est vrai que ça reste encore aujourd'hui dans le monde juif une problématique, une tension. Mais il faut toujours se poser la question de qui on considère comme étant la voix légitime. Vous savez, c'est intéressant quand des gens, on va dire comme moi, pas seulement des femmes, mais des voix progressistes à l'intérieur du judaïsme parlent, on se pose toujours la question de leur représentativité ou de leur légitimité. Quand on reçoit des gens, disons, un peu plus barbus que moi, en général, on ne pose pas la question de leur représentativité, de leur légitimité. Aujourd'hui, il y a des voix plurielles et il faut se poser la question de pourquoi il y a un cachet de légitimité ou d'authenticité qui est donné dans nos traditions aux voix, on va dire, plus perçues comme plus traditionnalistes. Pourquoi ont-elles un cachet d'authenticité alors qu'il y a des voix?
Pourquoi, selon vous, alors?
Parce que je pense que c'est plus simple, effectivement, de se raconter son histoire sur une modalité de pureté. En fait, le propre de ces voix-là, c'est qu'elles racontent bien souvent qu'il en a toujours été ainsi, qu'on n'a jamais rien changé à nos traditions, que finalement, elles représentent la voix du « il était une fois » ou du « bon vieux temps ». Et quand on est capable de percevoir, et c'est ce qu'on essaie de faire, Rachid et moi, particulièrement dans ce livre, la place de l'histoire dans nos traditions, la façon dont elles ont été influencées, dont elles ont été altérées, changées par les traditions et les temps qu'elles ont rencontrés, quand on introduit de l'histoire, des strates de l'histoire et de la sédimentation de l'histoire dans notre discours, eh bien on gagne en complexité, mais parfois notre discours est moins audible.
Non, mais même si on n'est pas naïf au point de penser que telle ou telle faction du judaïsme orthodoxe, qu'on parle des Lubavitch, qu'on parle des Hassides, bref, différentes chapelles, si je peux employer le terme, synagogues, si vous préférez, pour les catégories de judaïsme aujourd'hui présent, on a plutôt l'impression que les mondes religieux presque tous les mondes religieux, en tout cas l'islam et le judaïsme, ont aujourd'hui des tentations qui sont des tentations intégristes. Ces tentations intégristes, elles se voient par exemple avec les orthodoxes juifs en Israël. Et on a l'impression que la part intellectuelle, la part ouverte est aujourd'hui minoritaire.
Oui, parce qu'il y a effectivement un repli identitaire auquel on assiste, qui passe par ce que Rachid dit très bien, le vestimentaire et l'alimentaire dans nos traditions respectives. C'est-à-dire que tout à coup, il y a des codes et des normes qu'on s'imagine comme étant figées. Mais certains, je le redis, ont l'illusion de croire qu'il en a toujours été ainsi. Et c'est là qu'il faut être capable de contrer ce discours. Vous savez, même au sein du judaïsme, aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que peut-être, enfin je caricature, mais que Moïse serait descendu du mont Sinaï avec un chapeau de Traimel de Rabbi Jacob. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression qu'il en a toujours été ainsi. Et en fait, on a perdu un rapport à la complexité de nos identités, de nos histoires. Et donc, on se replie vers une norme identitaire qui passe par l'alimentaire, par le vestimentaire, par un discours extrêmement normatif.
Voilà, mais c'est la même chose également dans l'islam, Rachid Benzine, et chez beaucoup de jeunes gens qui... On découvert l'islam il y a peu de temps, parce que finalement, c'est cela aussi la question de la radicalisation en France. On voit une conception de l'islam qui est extrêmement ritualiste, avec des questions aussi secondaires en apparence, comme le fait de savoir ce qu'il y a dans les fraises Haribo, dans les fraises Tagada, pour savoir s'il y a ou non des composants animaux. Vous en parlez dans le livre que vous avez fait en commun. On se perd dans les rituels et finalement, on arrive à une religion qui nous faire monter quelques centaines d'années en arrière.
Oui, vous avez raison, dans la mesure où l'islam a changé de visage en 60 ans, c'est-à-dire que si vous prenez par exemple la création de l'université de Médine en 1961, il est clair que dans ses statuts, il s'agit de wahhabiser l'islam mondial, c'est-à-dire de donner un visage de l'islam qui est finalement l'islamo-wahhabisme. Et c'est une tendance qui remonte au XVIIIe siècle et qui jusqu'en dans les années 50, dans le monde musulman, était considérée comme une hérésie. Donc qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de l'islam pour que cette version de l'islam devienne finalement cette version de l'ultra-orthodoxie? Tout simplement parce qu'il y a eu d'abord les pétrodollars qui ont permis finalement de déployer ce visage de l'islam. On a formé des gens, on leur a dit vous revenez dans vos pays et donc vous wahhabisez l'islam mondial. Et les jeunes, aujourd'hui, ont accès à ce type d'islam qui est un espèce de kit de survie en contexte de postmodernité. C'est-à-dire que finalement, aujourd'hui, nos sociétés, et il est tout à fait normal que les religions qui appartiennent aux sociétés, qui sont le produit aussi des sociétés, subissent la même chose. À partir du moment où vous avez des crispations identitaires, vous avez des crises identitaires, il se passe la même chose aujourd'hui, finalement, dans le religieux, puisque le rite va devenir l'alpha et l'oméga de toute existence humaine. Et donc, on voit que cette norme du halal, qui dépasse finalement le cadre simplement du salafisme, est en train de s'imposer partout. Et cette norme du halal arrive très bien à se marier avec le marché néolibéral. C'est-à-dire que on va rentrer dans des spécificités qui vont être de plus en plus importantes et créer des frontières entre le nous et le eux.
Et alors, ça, est-ce que ça vous fait peur? Parce que il est compliqué, j'imagine, vous êtes islamologue, Rachid Benzine, vous allez me répondre, mais il est difficile de ramener ces jeunes, je ne sais pas d'ailleurs si vous le souhaitez, à une laïcité, à une commensalité, comme on dit, puisque la question du halal, elle a souvent été agitée comme un enjeu politique. C'est aussi une question de manger ensemble, et si on ne mange plus ensemble, eh bien, il est compliqué ensuite de vivre ensemble.
La question du halal est avant tout une question identitaire. Ça, c'est important, je dirais, de le mettre en avant, et qu'en France, dans la République, on intègre les gens sous deux processus, me semble-t-il. D'abord, l'idée du combat, le combat qui est finalement important sur la question du modèle, et la question finalement de partager ensemble un même repas, ou en tout cas être assis autour d'une table pour manger ensemble. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui devient de plus en plus difficile pour certains. Et c'est pour ça qu'il me semble que c'est important, je dirais, d'introduire l'idée de l'histoire, de bien montrer que l'islam tel que se le représente n'a pas toujours été ainsi, et que beaucoup de mouvements qui prétendent être à l'origine, en vérité, sont des constructions sociales récentes. Et c'est pour ça que, en tout cas, dans mon travail, la place de l'histoire est quelque chose de fondamental, parce que nous nous retrouvons avec des jeunes qui sont dans une triple rupture. D'abord, une rupture avec l'islam traditionnel de leurs parents, une rupture avec l'islam classique, c'est-à-dire l'islam c'est quand même 15 siècles d'histoire, et une rupture avec la modernité intellectuelle. Ce qui fait que nous avons un déficit d'histoire et un excès de mémoire. Et quand vous avez un excès de mémoire qui ne repose pas sur le travail historique, ça donne des fantasmagories qui peuvent aller jusqu'à Daesh.
Avant de continuer dans le domaine historique, restons à table avec vous, Delphine Horwiller. Vous êtes rabbin. Et l'autre question qui se pose pour le halal, pour la cache-route, c'est la question du bien-être animal, qui est aujourd'hui au cœur de l'actualité et qui semble incompatible avec l'abattage rituel, qu'il soit halal ou cachère. Qu'est-ce que la cache-route peut, dans ce domaine, est-ce qu'il ne serait pas temps, là aussi, de faire en sorte que ces normes alimentaires évoluent? Parce qu'il faut rappeler que les animaux sont tués bien souvent sans être assommés, sans être étourdis, et donc il y a de la souffrance animale au moment de l'abattage.
Alors d'abord, il faut revenir au principe de la cache-route. En principe, la cache-route est précisément, et les textes le disent, faite pour panser cette souffrance animale. C'est-à-dire qu'un animal qui aurait souffert, en principe, est invalidé dans le processus de cache-route, n'est plus cachère lors de l'abattage rituel. Donc effectivement, il faut se poser la question de potentiellement, quelles sont les dérives, à quoi on assiste aujourd'hui. Il y a des gens qui engagent encore une fois ce débat, notamment aux États-Unis, en Israël. Il n'est pas vraiment engagé en France, mais il faut se rappeler que la question de la souffrance animale fait précisément partie à l'origine de la cache-route, et c'est à ça qu'il faut revenir.
Il est engagé en France, c'est-à-dire que l'on peut éventuellement savoir gré au judaïsme de prendre en compte la question de la souffrance animale, mais de mal y répondre, puisque aujourd'hui on considère que l'abattage rituel est inadapté. Est-ce qu'on peut changer ça? Et c'est important, puisque la cache-route fait partie, en quelque sorte, des dogmes du judaïsme auxquels il est extrêmement difficile de répondre, notamment parce que celle-ci se durcit pour un certain nombre de milieux religieux.
Alors, comme toujours, dans le monde juif, quand vous posez la question, la réponse, c'est ça dépend à qui vous demandez. Voilà. Disons qu'aujourd'hui, ce débat est engagé. Alors, il est évident qu'aujourd'hui, on n'y répond pas exactement, mais ce débat est engagé, et il est engagé avec une vraie réflexion plutôt à l'étranger plutôt qu'en France, sur la question de comment on peut être traité, par exemple, la question de l'étourdissement de l'animal. Aujourd'hui, le débat est engagé. On l'avait traité notamment dans un numéro de Tnoua, la revue dont je m'occupe, sur les animaux, sur laquelle je vous renvoie.
Rachid Benzim, lorsqu'il est question, là aussi, de vivre ensemble, lorsque des jeunes musulmans viennent vous voir avec cette question du halal, avec d'autres questions, qu'est-ce que vous leur répondez? Qu'est-ce que vous leur conseillez de faire?
Je leur dis d'abord que le halal ne fait pas partie des cinq piliers de l'islam. Et comme le dit l'imam Tariq Koubrou, il ne faudrait pas que l'accessoire devienne essentiel. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Ensuite, il y a des prédispositions dans notamment l'aspect juridique de l'islam qui dit que la viande, notamment de ce qu'on appelle les gens du livre, est licite pour eux. Ça, c'est important. Et donc, s'il y a quelque chose à faire d'abord sur la question du comportement et la question de l'éthique, avant de réduire leur religion à l'aspect vestimentaire et alimentaire.
Rachid Benzin, Delphine Horwiller, des mille et une façons d'être juif ou musulman, c'est un dialogue publié aux éditions du Seuil. On vous retrouve dans quelques minutes, aux environs de 8h20. On va continuer à commenter l'actualité avec vous, avec la radicalisation d'une partie de la jeunesse, avec également des questions qui sont posées autour du conflit israélo-palestinien. Comment faire lorsqu'on est juif ou musulman pour parler de ces questions-là? Il est 8h sur France Culture.